Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Dans cette série d'émissions sur la culture générale, s'inspire de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris et dont la version papier est toujours disponible chez les libraires. Donc nous en sommes au chapitre 3 qui concerne le particulier et l'universel. Il y a une dialectique entre ces deux pôles, « épouse et n'épouse pas ta maison », disait René Char, hein, épouse, c'est-à-dire enracine-toi dans ton passé, et ne l'épouse pas, c'est-à-dire en quelque sorte éloigne-toi de ce passé pour t'en émanciper. J'avais, lors de la précédente émission, dit que ces deux pôles étaient également nécessaires et qu'il y avait danger à ne privilégier qu'un seul de ces pôles. Si on considère l'homme comme trop enraciné, effectivement, il manque d'ouverture d'esprit, mais à l'inverse, si on le considère comme abstrait, il manque de ce passé qui constitue les fibres mêmes de son être. Et j'avais essayé de réhabiliter quelques constructions symboliques. Je rappelle que la notion de construction symbolique est essentielle dans l'architecture de mon ouvrage. J'avais réhabilité quelques constructions symboliques en voyant leur sens psychologique. J'avais parlé du parrain et de la marraine que l'on donnait à l'enfant justement lors de son baptême, et parrain et marraine pouvaient justement permettre à l'enfant de rêver à des instances situées loin de lui, dont il ne voyait pas les défauts comme il voyait les défauts de ses parents. Donc il était très nécessaire pour l'enfant, me semble-t-il, d'avoir ces deux êtres qui garantissaient justement son existence. Godfather, Godmother en anglais, Père divin, mère divine, hein, archétype protecteur. Ce sont des cariatides qui soutiennent l'enfant balcon, pourrait-on dire, en quelque sorte. J'avais dit aussi que l'usage de donner à un enfant pour lui donner plusieurs noms, hein, plusieurs prénoms, hein, qui venaient du parrain et de la marraine, souvent le parrain donnait un nom, la marraine donnait un autre, eh bien c'était pour prévenir les envoûtements du sorcier travaillant sur le visage, ou le tous, vous voyez. Hein. Cette explication vaut ce qu'elle vaut, il me semble qu'elle est intéressante psychologiquement. Quant au deuxième exemple que j'avais pris, l'observance du repos dominical le dimanche, il me semblait que c'était utile de temps en temps de faire un break, comme on dit en anglais, dans la vie agitée et trépidante que nous suivons. Hein. Et finalement, ceux qui disent qu'aujourd'hui on pourrait travailler le dimanche, c'est-à-dire faire que le dimanche soit comme un jour comme les autres, oublient justement la vérité psychologique qu'il y a là-dedans, hein, nécessité de s'arrêter, de méditer sur soi-même, y compris même l'ennui, parce que l'ennui est quelque chose peut-être de positif. Vous voyez la façon dont aujourd'hui on traite les enfants, on veut les suroccuper constamment, on les amène ceci, cela, voire pour éviter qu'ils ne s'ennuient, on en fera plus tard des enfants hyperactifs, hein, c'est-à-dire coupés d'eux-mêmes, incapables de se faire face à eux-mêmes. Vous voyez, tout le malheur de l'homme, disait Pascal, vient de ce qu'il ne sait pas demeurer en repos dans une chambre. Dans ces deux exemples, baptême, parrain-marraine et deuxièmement le repos du dimanche, me semblait être intéressant pour montrer que ces vieux usages, il est nécessaire de les garder, hein, de les restaurer, de les réhabiliter. Alors, est-ce qu'il faut les restaurer, les réhabiliter, ces constructions symboliques, pour des raisons simplement psychologiques, hein, même si la signification religieuse ou théologique de cette institution n'est plus perçue? Je n'entends pas par le baptême ce qu'on entend ordinairement, la promesse par garantie ou caution opérée par le parrain et la marraine, la promesse justement que l'enfant sera un croyant, il sera lavé du péché originel qui depuis l'abbaye Saint-Augustin, justement, obscurcit tout le climat du catholicisme occidental. Hein. Bon, je ne dis pas que, finalement, ces questions-là théologiques doivent être convoquées ici, maintenant. Pas du tout. Hein. Le repos dominical, pareil, il ne s'agit pas d'obéir au troisième commandement. Hein. C'est pas ça le problème. Je crois que la vérité d'un usage, c'est son utilité psychologique, vous voyez, indépendamment de sa signification peut-être religieuse, traditionnelle. Hein. À côté du parrain ou de la marraine, je pense par exemple à l'ange gardien et à sa version laïque, la bonne fée qui veille sur nous. Pourquoi ne pas les utiliser, ces vieilles constructions? L'ange gardien, c'est quelque chose de religieux, mais la bonne fée, c'est quelque chose de totalement laïque. Songez que Socrate, penseur rationaliste, s'il est né, et lui-même adulte et rationnel, il avait un démon, un daimon, avec lequel il parlait de temps en temps. Donc, la notion d'utilité. Les pragmatistes disent qu'une chose est vraie si elle est utile. La vérité du pudding, c'est qu'on le mange. Hein. Alors, Marx définissait la religion comme un opium du peuple, mais pour un grand malade, l'opium libère des souffrances, et qui serait assez téméraire pour ne pas en vouloir, vous voyez. Vous savez, l'homme peut supporter bien des choses dans sa vie, bien des épreuves, mais il va s'effondrer si on lui dit que la vie est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et ne signifiant rien. Shakespeare, Macbeth, vous voyez, hein. Alors pourquoi une construction symbolique n'aurait-elle pas un sens du fait même qu'elle nous sert, qu'elle nous est utile, vous voyez? Soyons pragmatistes ici, hein. Un proverbe dit « médecin et qui sait guérir », c'est-à-dire celui-là est médecin qui sait apporter la guérison, peu importe par quelle voie, en quelque sorte. Hein. Donc je dirais que les religions traditionnelles sont peut-être devenues des psychothérapies, des grands systèmes psychothérapeutiques. Peut-être que tout le spirituel s'est réduit pour nous à du psychologique, comme le pensait Carl Gustav Jung. Mais même ainsi, il est vital pour nous de réhabiliter ces constructions complexes qui aident à vivre. Alors en ce sens, la culture serait tout simplement ce qui succède aux religions quand celles-ci s'efface du cœur des hommes. Hein. Une fois que les églises et les temples sont désertés, au moins chez nous, hein, les maisons de la culture succèdent aux maisons de Dieu, en quelque sorte. On a dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Bon, mais je pense qu'on peut dire aussi que c'est ce qui subsiste quand les anciennes religions ont disparu. Hein. Parce que l'époque moderne, par son matérialisme, est rudimentaire. Elle a une approche triomphaliste et dénégatrice des problèmes. Par exemple, aujourd'hui, on veut à tout prix médicaliser l'angoisse et la tristesse. On soigne chimiquement la dépression parce qu'on ne peut plus la symboliser et lui donner sens. La donation de sens, je rappelle, est quelque chose de fondamental. La médecine toute seule, elle ne donne pas sens. Elle est dénégation de la souffrance et en un sens, bien sûr, soyons prudents, elle désinstitue l'être souffrant de son humanité. Par exemple, si je décrète Raskolnikov dans Crime et Châtiment de Dostoïevski comme un être irresponsable de ce qu'il fait, je le prive de lui-même, de son être profond, vous voyez. Les constructions symboliques, au contraire, comme les religions traditionnelles, mettent en scène le destinal de la vie. Elles sont représentation de nos limites. Par exemple, que la mélancolie soit constitutive de l'être, il suffit de lire les psaumes pour s'en persuader. Vous voyez ce qu'on lit au psaume 119, verset 25, verset 28. « De chagrin, mon âme ne dort plus. Mon âme est collée à la poussière. Relève-moi selon ta parole. » Vous voyez? Donc, le chagrin, c'est Akedia dans la Septante. Hein. Ça a donné le mot acédie, hein. La mélancolie ou l'acédie, c'est-à-dire ce désenchantement qui nous saisit souvent au milieu de la vie, quand tout ce que l'on a, finalement, ne répond plus à nos anciennes aspirations. Alors, que faire? La dépression de la mi-vie. Hein. Donc, les psaumes sont très utiles parce qu'ils mettent en scène, ils représentent cet état. Et David David aussi jouait de la harpe pour soulager Saül qui était dépressif, hein, comme il se voit dans le tableau de Rembrandt représentant cette scène. Donc je répéterai que mélancolie ou acédie ne se nient pas, ne se doivent pas se nier, mais elles se disent. Hein. L'acédie ne se pense pas hein, avec un A, hein, pansement, mais elle se pense avec un E, elle se réfléchit, par renvoi par exemple au passage des psaumes qui l'ont représenté. Un antalgique ou un antidépresseur n'agit jamais sur la cause de la dépression, hein. Or c'est la cause qu'il faut penser, qu'il faut représenter, qu'il faut mettre en scène. Par représentation, j'entends presque quelque chose au sens théâtral du mot, si vous voulez, mettre en scène. Hein. De même, le remède à l'inappétence psychologique n'est sûrement pas le Viagra. Hein. Il n'y a pas que l'impuissance physique, il y a aussi l'inappétence morale. Il faudrait retrouver, en quelque sorte, chez certains dépressifs, le désir du désir même, vous voyez. Hein. Donc, je crois que la barbarie moderne, c'est une barbarie qui veut tout soigner, tout médicaliser, penser les choses hein, au sens de pansement, c'est-à-dire anesthésier l'homme d'aujourd'hui. Hein. Alors que les constructions symboliques, si on sait bien les lire, si on sait bien revisiter l'héritage d'où nous venons, nous permettent justement de nous familiariser avec ces états. Hein. La maladie, comme on l'a dit souvent, c'est un mal à dire. Hein. Il faut pouvoir dire, et qu'est-ce qui dit les choses? Ce n'est pas le remède, ce n'est pas la chimie qui dit, hein. C'est précisément le texte ancien dont nous pouvons nous souvenir à tel moment de notre vie pour l'avoir lu autrefois. Donc l'héritage doit être revisité et non pas supprimé, il ne faut pas en faire table rase. Voilà. Alors, il y a des succès d'années religieux. Hein. J'ai parlé lors d'une émission précédente du marxisme, une représentation, une mise en scène de la vie selon le marxisme. Eh bien, je dirais que malgré son athéisme déclaré, le marxisme a fonctionné longtemps comme une religion. Il en avait toutes les caractéristiques, et en cela, il a été en son temps très utile, puisqu'il a donné de la confiance aux prolétaires. Seulement, l'imposture est de prétendre le marxisme scientifique. Hein. On disait le matérialisme scientifique. Non, pas du tout. Hein, c'est pas du tout scientifique. En toute rigueur, il n'y a aucune logique à partir de la considération d'un monde actuellement imparfait. Il n'y a aucune logique à postuler pour l'avenir d'un monde meilleur. Hein. Je vais prendre un exemple, une métaphore. Supposons que je vois un cajot d'orange dont la première rangée est pourrie. Alors, qu'est-ce que je vais conclure logiquement? Comme tout scientifique le ferait en pareil cas, je conclurai logiquement qu'il y a des risques pour que la rangée du dessous soit elle aussi pourrie. Alors, je ne dis pas qu'elle sera forcément pourrie, mais je ne puis logiquement conclure qu'elle ne l'est pas. ou du moins, s'il est possible que les oranges d'en dessous ne soient pas pourries, il n'est pas possible que je conclue ou que j'infère l'inférence, hein, que j'infère cela de la considération des oranges qui se trouvent en dessus. Je ne nie pas la possibilité pour les oranges d'être autres que sont les premières, mais je nie la possibilité logique de ma part d'une inférence ou d'une conclusion dans ce sens. Si je conclus cela, ce n'est pas quelque chose de logique, mais quelque chose d'affectif ou d'irrationnel. J'espère que les oranges ne seront pas pourries, qu'il y aura un monde meilleur, un royaume de Dieu, ou bien des lendemains qui chantent pour les prolétaires, etc. Ce n'est donc pas une certitude logique, mais seulement une attente psychologique. C'est cela qu'explique Bertrand Russell dans un livre essentiel qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas chrétien ?» au chapitre « L'argument du remède à l'injustice ». Donc, qu'est-ce que nous serions sans espérance, hein ? Nous serions dans la pure tautologie, hein ? Ce que l'on voit n'est que ce que l'on voit et rien d'autre, hein, voyez ? Je pense à la formule bien connue des défenseurs du marxisme dans les années 1950. Il ne faut pas désespérer Billancourt. Bon. Mais voyez ce que dit Brecht dans La vie de Galilée. Il s'agit d'un petit moine qui implore Galilée de bien vouloir renoncer à dire la vérité sur le ciel en ayant égard à la paix de l'âme des malheureux. Je cite, voici ce que dit justement le petit moine. « On leur a assuré, hein, aux pauvres, hein, que l'œil de la divinité est posé sur eux, que tout le théâtre du monde est construit autour d'eux, afin qu'ils puissent faire leurs preuves. Que diraient les miens s'ils apprenaient de surcroît qu'il n'y a aucun œil posé sur eux ? Je les vois poser leur cuiller sur la pierre des foyers. Je vois comme ils se sentent trahis et trompés, vous voyez ? Donc l'œil de Dieu a disparu. Alors, pas en plaisantant, je pourrais dire aujourd'hui, par rapport à l'œil de Dieu, on dirait mon œil, hein, il n'existe pas. Quant à la croix salvatrice, alors aujourd'hui, trivialement, l'incroyant pourrait dire des clous, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on va gagner là-dedans, hein ? À beaucoup d'égards, le problème des constructions symboliques, c'est le choix entre une vérité désespérante et une illusion consolante. Et il n'est pas sûr que la seconde doive toujours céder à la première, vous voyez ? Donc tenons compte de cette utilité, hein. Ce qui donne sens, parfois, est quelque chose qui est justifié par cela même. Bon, alors bien entendu, faut être précis, il y a certaines donations de sens qui sont contestables, ça c'est évident, hein. Par exemple, en christianisme, un éloge inconditionnel du sacrifice, sous prétexte que la croix nous a sauvés, hein. Bon, ça, je pourrais revenir là-dessus. Je ne dis pas que tout ce qui donne sens, justement, est justifiable par soit seul. Je dis simplement que le matérialisme moderne détruit justement tous ces dispositifs donateurs de sens et qu'il faut y regarder à deux fois. Ce n'est pas parce qu'ils ont parfois donné naissance à certaines aliénations discutables qu'il faut les supprimer. Il ne faut pas, comme disent les Anglais, jeter le bébé avec l'eau du bain, vous voyez. Alors, le dernier point sur ce chapitre 3 de mon livre concerne le relativisme et l'élargissement de l'esprit. Je dirais qu'il y a une autre utilité à la connaissance des différentes constructions symboliques et des représentations du monde qui sont différentes des autres, hein. L'enjeu, c'est une meilleure compréhension des hommes entre eux. En effet, l'esprit peut explorer les constructions différentes de celles auxquelles il est habitué, non pas pour critiquer sa propre culture, comme je l'ai dit lors des émissions précédentes, mais pour mieux se comprendre lui-même dans la pluralité de ses structures et de son fonctionnement. L'esprit s'élargit de voir comment fonctionne celui des autres, hein. Il le fait de façon différente, mais aussi de façon analogue ou au moins compréhensible, car c'est toujours de l'esprit humain qu'il s'agit. Donc je dirais qu'être cultivé, c'est comprendre que les autres ne sont pas comme nous, cultivés de la même façon, comme nous le sommes, hein. En effet, j'organise le monde selon un tel agencement, une telle ponctuation, comme le dit Václavic dans un livre essentiel qui s'appelle « La réalité de la réalité ». La ponctuation des situations, c'est une organisation signifiante des situations, hein. En fonction de mon éducation et de mes conditionnements, j'aurai telle ou telle ponctuation de telle ou telle situation que je vivrai. Mais d'autres ponctuations sont possibles, elles sont toutes différentes. Je prends un exemple. Je souhaite la suite des étapes obligées d'un flirt, hein. Les étapes et surtout leur importance relative ne sont pas les mêmes pour un Américain et une Anglaise, par exemple. Supposons un soldat américain flirtant avec une jeune fille anglaise, lors de la libération par exemple, hein. Eh bien, il aurait placé le moment ou la phase du baiser dans telle position ou tel rang, mettons au début de l'ensemble de la séquence flirt, tandis que l'Européenne l'aurait mis bien plus loin, vous voyez. Ce moment. Le baiser pour l'Européenne aurait été beaucoup plus important ou engageant l'être que pour lui, hein. Donc, on imagine les malentendus qui peuvent s'ensuivre de cette disharmonie chronologique, qui est une disharmonie axiologique, c'est-à-dire qui a rapport aux valeurs, ou une disharmonie culturelle. Les disputes et les brouilles naissent pour moins que cela. Une dira, il m'a embrassé, pour qui me prend-il pour l'avoir fait si vite? Et l'autre dira, qui donc est-elle, pour ainsi se formaliser d'un geste en réalité anodin, etc. Voyez donc, suivant les cultures, nous ne ponctuons pas, nous n'organisons pas les situations que nous vivons de la même façon. Alors il faut connaître justement ces différences, et donc on se connaît mieux soi-même, on connaît davantage mieux l'autre, et ainsi on vit en meilleure entente, en meilleure harmonie, ensemble. Donc, le livre « La réalité de la réalité », je le répète, est un livre essentiel. Il est édité au Seuil, dans la collection Point. Hein. C'est un livre de Paul Václavic, hein, qui montre bien la différence, justement, culturelle qu'il y a dans la façon d'appréhender les moments de la vie. Et de la même façon, toujours dans la même édition, au Seuil, il y a un livre de Hall, T.R. Hall, H-A-2-L, qui s'appelle « La dimension cachée », qui analyse la notion de proxémie. Alors, qu'est-ce que c'est que la proxémie pour Hall? C'est la distance habituelle où l'on se tient vis-à-vis des autres dans le rapport avec eux. Eh bien, cette distance, distance physique, topologique en quelque sorte, diffère considérablement selon les cultures. Il y a des cultures de la vie collective et de la socialisation, de la distance rapprochée avec autrui. Et il y a des cultures de la réserve, de l'intimité, de la vie privée, dont la distance est éloignée dans ce cas-là. Hein. Par exemple, un Maghrébin aimera la pièce commune. Un Allemand ou un Anglais préféreront la chambre individuelle. Un Méridional, par exemple, s'approche de son interlocuteur quand il parle, hein, sans que le geste de s'approcher signifie une intention particulière de familiarité. Tandis qu'un homme du Nord, au contraire, se tiendra à distance respectable et n'aimera pas en général qu'on s'approche de lui. Alors imaginons un homme du Midi discutant avec un homme du Nord. Le premier s'approche, l'autre se recule. Il y a là une double incompréhension, une double méfiance, vous voyez. Et donc le relativisme culturel doit être connu pour éviter les malentendus et les conflits, vous voyez. Alors, en tout domaine, donc pour reprendre ma thématique, dialectique du particulier et de l'universel, là je viens d'analyser les particularités, hein, bien entendu. Hein. Alors, en tout domaine, on n'échappe pas au particulier, même si on ambitionne l'universel. Hein. Il est vrai qu'un homme du Midi et un homme du Nord sont des hommes en général. Ils ont les mêmes droits, hein, les droits de l'homme, si l'on veut. Hein. Mais ils ont des idiotismes, ou des idiosyncrasies. Hein. Idiotesse, ça veut dire particulier en grec. Hein. Ils ont des idiotismes particuliers. Hein. Et c'est ça qu'il faut connaître. Parce que sinon, la communication entre les hommes appartenant à des cultures différentes sera très difficile. Mais notez bien d'ailleurs que cette difficulté se produit à l'intérieur d'une même culture. L'usage d'une même langue, par exemple, ne garantit pas que les gens se comprennent bien. Nous mettons toujours des choses différentes sous les mêmes mots, comme nous symbolisons ou ponctuons différemment les mêmes situations. Par exemple, Nathalie Sarraute l'a illustré dans ses livres comme « L'usage de la parole » ou bien « Pour un oui, pour un non ». Il faut donc à la fois prendre en compte tous les modelages culturels divers, les spécificités, hein, et puis un risque constant de brouillage des informations, à l'intérieur même d'une seule culture, vous voyez. Alors, la dernière question que je poserai pour terminer cette réflexion sur ce point, c'est est-ce qu'il y a une réalité objective, indépendante des symbolisations diverses que les hommes en font, hein ? On peut en douter. En effet, l'esprit organise et structure chaque situation en fonction de ses propres partis pris, de ses propres habitudes. Alors, un signe de haute culture serait peut-être, outre le fait d'approfondir et de réévaluer la sienne, de passer de Kultur à Bildung, de l'héritage à la formation, ce serait d'entrer ou d'essayer d'entrer dans les autres versions, les autres programmes ou les autres scénarios. On parle aujourd'hui des logiciels, les logiciels au sens métaphorique. Les logiciels culturels sont fort divers, et à cela doit servir la connaissance, l'exploration des autres logiciels que celui de notre propre culture. L'enjeu, c'est une meilleure compréhension des autres pour une meilleure cohabitation avec eux, vous voyez. Donc, je résume un petit peu tout ce que j'ai dit sur ce chapitre 3. Il est nécessaire de critiquer les idiotismes culturels lorsqu'ils sont dangereux ou même parfois barbares, comme je l'ai dit lors d'une émission précédente. Il est nécessaire de s'en éloigner. Mais d'un autre côté, il est nécessaire justement d'aller à la rencontre de soi-même par la mémoire de la culture dont on est héritier. Donc c'est finalement un dosage qu'il faut faire. Premièrement, s'ouvrir aux autres en oubliant sa propre culture, et deuxièmement, réintégrer sa propre culture pour mieux s'explorer soi-même et avoir davantage de densité, ne pas être ces individus atomisés, désorbités d'aujourd'hui. La déculturation, en effet, est extrêmement importante aujourd'hui. Donc, il est très utile, justement, de se souvenir, parfois, de ce dont on vient. Je crois qu'il y a un proverbe africain qui dit quand tu pars, bon, bien sûr, sache où tu vas, mais n'oublie pas d'où tu viens. Notre proverbe nous dit, pas africain celui-là, le difficile n'est pas de monter, mais en montant de rester soi-même. C'est-à-dire, finalement, de savoir, de connaître ses racines. Donc, comme j'ai dit lors de la dernière émission, l'arbre et l'oiseau se partagent notre être. C'est une phrase de René Char. L'oiseau volette de ça de là, il est nomade, il va voir ailleurs, mais l'arbre dans ses racines est profondément fixé au sol. Donc rien justement ne doit être méprisé. Alors, lors des prochaines émissions, je parlerai du langage symbolique, parce que ces constructions symboliques, qui sont l'âme de mon ouvrage, fonctionnent avec un certain langage. Donc, nous parlerons longuement des constituants de ce langage symbolique, nous verrons les dangers qu'il y a à réduire les fables, les mythes, les apologues, etc., à du langage strictement rationnel. Donc, nous apprendrons justement ces catégories de la logique symbolique et nous verrons que ces constructions symboliques, qui, je le répète, instaurent un ordre qui est proprement l'espace de la culture face au monde des faits contre les faits, en imposant à l'esprit des perspectives fictives et imaginaires, justement, ces constructions symboliques fonctionnent de telle ou telle façon. Il faut savoir, surtout à l'époque moderne, matérialiste et dite scientifique, donc d'une barbarie d'une autre façon, la barbarie savante dont j'ai déjà parlé, il faut savoir justement explorer le substrat de ces constructions. Et il y aurait une véritable catastrophe anthropologique, je dirais, si l'on réduit le langage de l'esprit à celui de la rationalité. Donc il faut, nous avons commencé déjà de le faire, réhabiliter un nouveau langage qui a été oublié ou qui a été perdu pour remettre l'homme en contact avec ses constructions symboliques. Et cette restauration, cette réhabilitation, c'est aujourd'hui la tâche essentielle lorsqu'on approche la culture. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir à tous.
retrouver Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.